histoire particulière. Selon le dictionnaire de droit international pénal en 2015, un criminel de guerre est une personne qui a commis un crime de guerre et dont la responsabilité pénale individuelle se voit dès lors engagée. Parmi les chefs d'accusation retenus, l'homicide intentionnel, la torture ou les traitements inhumains, y compris les expériences biologiques, le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances, de porter des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé, l'appropriation de biens non justifiés. La construction des 8 émissions d'une histoire particulière que vous allez écouter le samedi à 17h suit le même procédé. D'abord les faits. Ils sont souvent violents, difficiles d'écoute, mais nécessaires. Puis vient la personne elle-même. Qui est-elle? D'où vient-elle? Quel est son parcours? Comment a-t-elle basculé dans la banalité du mal? Et pour terminer, le récit de sa traque, sa chute, souvent sa mort. Chaque portrait démontre que quelles que soient les époques et les guerres, hélas, l'histoire se répète.
Attention, certains propos peuvent heurter les oreilles sensibles. Archives France 2, 29 avril 2004.
Voilà ce que des Américains ont fait à des prisonniers irakiens. C'est Dan Rather, la grande vedette de la chaîne de télévision CBS, qui parle. La voix est posée, mais on sent le journaliste profondément choqué. Cet homme, explique-t-il, est attaché à des fils électriques et on lui a ordonné de rester ainsi en équilibre sur cette boîte. En cas de chute, il serait électrocuté. CBS s'est procuré une dizaine de photos du même genre, comme cette pyramide d'hommes nus. Le plus choquant, note Dan Rather, c'est le sourire, la joie apparente, le côté triomphaliste des soldats, hommes et femmes, qui traitent ainsi des détenus.
Lindy England, la scandaleuse d'Abu Ghraib. Alain Lefkovitch, Anne de Pelchin. 28 avril 2004. L'Amérique découvre avec horreur quelques-unes des milliers de photos prises par des militaires de l'armée de l'Oncle Sam, à la prison d'Abu Ghraib de Bagdad, la capitale irakienne, lieu symbolique de la violence de l'ancien régime déchu de Saddam Hussein. Et pour avoir commis ces clichés d'une inhumanité insoutenable, leurs auteurs risquent désormais la cour martiale. Lindy England.
Pour nous, on faisait notre boulot comme il était demandé. Et ils étaient contents du résultat. Nos supérieurs ont vu les photos et ils nous ont dit « C'est une super tactique. Continuez, ça marche. »
Elle, c'est Lindy England, celle dont l'histoire a retenu le nom, depuis indissociable de ce que le monde entier a appelé le scandale d'Abu Ghraib. Avec son amant, le sergent Charles Greiner, Lindy England va commettre l'irréparable, dans un contexte de guerre totale contre le terrorisme, où tout semble avoir été permis. C'est dès le mois de janvier 2004 que la générale Janice Karpinski, à la tête de la 800e brigade de la police militaire en charge de 3 prisons en Irak, dont celle d'Abu Ghraib, découvre les premières photos.
J'ai vu les photos pour la première fois quand le commandant de la division des enquêtes criminelles est venu dans mon bureau pour demander s'il était possible de s'entretenir avec moi. Mon assistant m'a dit « il vient du CID ». Il voulait me parler. Je lui ai demandé « qu'est-ce qui se passe ?» Il m'a répondu « il faut que je vous montre ces photos ». Il sort quelques tirages, des photos horribles qui ont été publiées plus tard. Sur une, un prisonnier est debout sur une boîte avec les mains reliées à des fils électriques, la tête recouverte. Sur une autre, un soldat se tient les pouces en l'air à côté d'un prisonnier enveloppé dans une housse mortuaire. J'étais choquée. D'où ça sort? D'après le commandant, elle provenait de l'appareil photo d'un de mes soldats. Il a dit « Maintenant, le général Sanchez souhaite vous voir ». Je suis donc allée voir le général Sanchez. Le général Sanchez ne m'a pas lâché un mot. Il m'a regardé. Sans demander que je me taise, mais il m'a regardé et j'ai su qu'il voulait que je me taise. Il a ensuite mis sa main sur un dossier, l'a tourné à 180 degrés et l'a glissé vers moi. Il y avait 3 petits paragraphes, dont le premier disait « Des informations ont été découvertes, des mesures extrêmes sont prises pour découvrir les photographies qui pourraient détruire l'opération militaire américaine en Irak. Le deuxième paragraphe disait « Les soldats possédant certaines de ces informations ne sont plus affectés sous votre commandement, c'est-à-dire sous mon commandement. » Selon le général, la responsabilité m'était entièrement imputée. Et le troisième paragraphe m'ordonnait de ne pas discuter de cette note, de ce moment ou de toute autre preuve que j'aurais pu voir, lire, tenir ou entendre avec qui que ce soit d'autre en dehors de cette pièce. Il a dit que c'était tout. Je me suis levée pour partir, accompagnée par son officier qui m'a dit « Ne vous inquiétez pas ».
En 2006, Lindy England témoigne dans le documentaire de Twan Huys intitulé « The Big Storm ».
When I got over there, it was just Grainer and Megan up there. And,
quand je suis arrivée là-bas, au bloc One Alpha, il n'y avait que Grainer et Megan, et ils avaient à ce moment-là un prisonnier surnommé Gus dans la cellule d'isolement.
But when I went upstairs to the office, he had to bring Gus out and take him to.
Lorsque je suis montée dans le bureau, ils allaient emmener Gus dans sa propre cellule, dans un autre bloc, mais il se montrait pas très coopératif.
So he asked me for my help.
Grainer m'a demandé un coup de main.
And I agreed.
J'ai dit oui, évidemment.
You always help a buddy.
Tu aides ton pote quand il en a besoin, non?
They ask. So I went downstairs with him and he had a tie-down.
Je suis donc descendue avec Gus et je le tenais avec une sorte de laisse, celle que Grainer lui avait mise autour du cou. Il m'avait demandé de la tenir. Il m'a prise en photo. Et d'après ce que j'ai compris, la raison était de l'intimider. Hey, je suis une toute petite femme et je te tiens en laisse. C'est moi qui décide où tu vas et comment tu te déplaces. Et si tu le fais pas, je te ferai bouger. C'était une véritable tactique d'intimidation pour l'humilier. Et finalement, ça a fonctionné. Il s'est levé pour aller dans sa cellule.
Toutes les photos ont été prises dans un espace-temps de 22 minutes. Il ne s'agit pas d'une pratique systématique ou d'un comportement omniprésent chez Lindy.
Xavier Amador, psychologue en charge de Lindy England.
C'est simplement arrivé pendant ces 22 minutes. Viens Lindy, mets-toi là et pose. Ma puce, va là-bas et pose derrière ces gars. Tiens cette laisse et clic, clic, clic. Et voilà l'infamie. Et d'atroces clichés. Elle ne contribuait pas aux abus quotidiens perpétrés sur les prisonniers. Ne vous méprenez pas, elle participait évidemment au dénigrement et humiliation, mais différemment de Grainer, qui lui s'investissait pour nuire, humilier et abuser de ses hommes. Lindy, elle, s'investissait pour satisfaire son petit ami et ses supérieurs.
Grainer was over there on the night shift in cell block 1A.
Grainer faisait le service de nuit au bloc 1 Alpha. Et Lindy s'y est rendue pour voir Sabrina Harmon, le sergent Harmon, car elle était une des autres soldates qui partageait sa chambre. Grainer l'a vue et lui a proposé de venir voir ce qu'il faisait. C'était une de ses soirées photos, comme il les appelait. Sabrina a dit que le prisonnier que les agents de la CIA avaient interrogé était mort et qu'il se trouvait dans la housse mortuaire devant eux. Alors, elle a voulu ouvrir cette housse, car elle n'avait jamais vu de cadavre. Elle l'a fait, et c'est ainsi qu'a été prise la photo d'elle, pouce en l'air, devant le mort dans la housse mortuaire.
Qu'est-ce qui est particulier le 8 novembre ?
C'est mon anniversaire.
Que faisiez-vous cette nuit-là ?
I got off work at 10 o'clock at night.
J'ai terminé le boulot à 22h et je me suis dirigée vers le bloc One Alpha. C'est à ce moment-là qu'ils les ont emmenés. Les prisonniers étaient menottés et avaient des sacs de sable qui leur couvraient la tête. À ce moment-là, ils étaient encore habillés. Ils ont été jetés en tas. Puis on leur a sauté dessus. Mais pas tant de fois et pas au point de leur casser une côte ou quoi que ce soit d'autre. Et on leur a piétiné les mains et les pieds.
Est-ce que vous pouvez me dire ce qui était en train de se passer lorsque cette photo a été prise?
Après avoir été déshabillés et démenottés, ils ont été disposés en pyramide humaine par Graner. La pyramide servait à regrouper les prisonniers ensemble parce qu'ils étaient nombreux. Il y en avait sept.
So instead of having them stand together,
au lieu de les faire s'aligner contre le mur debout main dans la main, Graner les a fait s'agenouiller et avec leur corps a construit une pyramide.
Est-ce que vous vous êtes questionné sur cette soirée? Sur le fait qu'il ne fallait pas faire ça, que c'était une mauvaise chose à faire?
J'ai trouvé ça glauque, un peu bizarre. Mais en même temps, si tout le monde le fait, pourquoi je le ferais pas? Ils n'ont pas arrêté ni remis en question leur pratique. Donc ce n'était pas bien, mais ce n'était pas assez inhabituel au point de s'arrêter.
L'image la plus connue de cette affaire est celle de la pyramide humaine composée d'hommes nus et dont les visages sont recouverts par des sacs de sable.
Lee Womack, avocat de Charles Grenell.
À ce moment-là, il n'y avait que trois ou quatre soldats américains qui assuraient la surveillance intérieure de la prison. Ils ont mis immédiatement aux prisonniers des sacs de sable pour leur couvrir les yeux et leur ont demandé de se déshabiller pour différentes raisons. D'une part, parce qu'ils veulent s'assurer qu'aucun d'entre eux ne porte une arme. D'autre part, un prisonnier, s'il est nu, aura moins tendance à se montrer agressif et un peu plus obéissant. Et ces prisonniers étaient pour la plupart musulmans. Ils étaient mal à l'aise d'être nus devant des femmes et savaient qu'il y avait une ou deux soldates qui gardaient la prison. La pyramide est en fait une technique que l'on enseigne aux gardiens de prison aux États-Unis. En effet, si tu mets des hommes en pyramide, tu les contrôles plus facilement. Si un des prisonniers décide d'attaquer un gardien par son mouvement, il risque de faire s'effondrer la pyramide, ce qui alertera assez rapidement le gardien sur son attaque.
Comment les prisonniers ont-ils réagi? Qu'est-ce qu'ils disaient?
À la pyramide? Ils n'ont rien dit. Les seuls moments où ils parlaient, c'était quand on posait une question.
Avaient-ils peur?
Probablement. Enfin, n'importe qui aurait eu peur, non?
The other images that you saw, perhaps the most egregious one.
Une autre image très flagrante est celle où un prisonnier se tient sur une caisse en plastique. Il a les yeux bandés, les jambes nues et porte un poncho d'où l'on peut voir dépasser les fils électriques. Ces fils sont reliés à ses testicules. Le gardien l'a prévenu que ces fils étaient branchés à un générateur et que s'il descendait de cette caisse, il tomberait et serait électrocuté. Ces fils n'étaient reliés à rien. Il s'agissait d'un stratagème psychologique pour l'effrayer et le garder éveillé. S'il s'endormait, il risquait de tomber et peut-être se faire électrocuter, alors qu'en réalité, il aurait juste frappé le sol en béton, mais ça, il ne pouvait pas le savoir. Tout se jouait dans la torture psychologique pour le maintenir en éveil et espérer qu'il parle au gardien.
Qui vous a demandé d'être sur cette photo?
Je crois que c'était Sergent Frédéric.
Vous souriez de nouveau sur cette photo.
Il m'a demandé de sourire. Alors je l'ai fait.
Sherif Akil, avocat des droits de l'homme et des victimes d'Abu Ghraib.
Une des techniques de dissuasion était de menacer les prisonniers de montrer ces photos-là à leur famille. Regarde ce que tu fais à cet homme, on va te balancer à ta famille. Cela a été une des raisons que l'on nous a données sur le pourquoi ces photos ont été prises, dans une démarche d'humiliation publique des prisonniers. Mais c'est devenu incontrôlable. Certains ont commencé à prendre ces photos par plaisir et les ont envoyées à leur famille aux États-Unis.
Pourquoi leur semblait-il important de prendre ce genre de photos ?
Je ne peux pas parler pour Charles Grainer, celui qui a pris les photos. On sait qu'il en a pris environ 1000, en plus des vidéos. De mon point de vue, il documentait son expérience en Irak pour lui-même. Il collectait des souvenirs de guerre. Lindy vient de Virginie-Occidentale. Elle est issue d'un milieu assez pauvre. Elle a grandi dans un mobilhome. Elle était muette jusqu'à l'âge de 7 ans. Elle avait de sévères troubles d'apprentissage.
Xavier Amador, psychologue en charge de Lindy England.
Les informations dont je dispose indiquent que son père était violent, qu'il a frappé au moins un de ses enfants. En grandissant dans cet environnement, tout enfant aurait du mal à comprendre ce qui est abusif et ce qui ne l'est pas.
C'est ici que nous jouions au ballon. Ma sœur jouait au baseball ici lorsqu'elle était en primaire, et elle jouait aussi en équipe avec notre frère. Elle voulait d'abord découvrir le monde, c'est pour ça qu'elle a décidé de s'engager, et puis d'économiser l'argent nécessaire pour aller à l'université, afin de réaliser son rêve, devenir une chasseuse de tempêtes. Elle voulait chasser les tornades, ça c'était son truc. Dans ma famille proche, il y a ma mère, mon père, et j'ai une sœur aînée et un frère cadet.
Lindy England.
Probablement quand j'avais 13 ou 14 ans, j'ai commencé à vraiment m'intéresser à la météo, aux éclairs, aux orages, tout ça. Dès qu'il y avait un orage, je voulais absolument sortir, ce qui énervait ma mère. Mais c'est l'excitation. De ne pas savoir comment ça va tourner, et la peur de la foudre. Surtout que je savais très bien où me réfugier quand la foudre frappait. C'est juste que j'adore regarder les nuages et les tempêtes.
Quand elle est entrée dans l'armée, c'était à une époque où le niveau requis pour être admis était bien inférieur à ce qu'il n'avait jamais été auparavant. Ainsi, lorsqu'elle a commencé, elle était en formation dans une unité de réserve. Elle n'était donc pas une militaire active. Elle n'a pas rejoint l'armée pour partir en guerre ou devenir une héroïne, ni même pour devenir quelqu'un de spécial. Elle a rejoint l'armée pour sortir de la pauvreté et d'un avenir qui ne semblait pas lui réserver grand-chose. De nombreuses unités de réserve ont donc été appelées et déployées en Irak à cette époque, parce que la guerre s'était étendue de l'Afghanistan à l'Irak à cause de George W. Bush.
La plupart des soldats affectés à la 800e brigade, certainement pas tout le monde, mais la grande majorité des soldats affectés à ce bataillon de police militaire étaient des soldats du week-end.
Général Janis Karpinski.
Ils s'étaient engagés pour gagner de l'argent, pour faire des études, ou parce que c'était leur travail du week-end. Ils ont reçu une formation d'agent administratif, de sergent motorisé, de gestionnaire de paix ou de personnel de restauration. Et ils ont reçu une formation de gardien de prisonniers de guerre. Et pendant les étés ou tout au long de l'année, ils suivaient une formation adaptée à ces exigences.
Lindy n'était jamais vraiment sortie avec quelqu'un. Elle n'avait jamais eu de petite amie avant de rencontrer Charles Grainer dans l'unité de réserve. Charles Grainer était bien plus âgé qu'elle. Je crois qu'il avait 14 ans de plus qu'elle. Ils ont ensuite été déployés en Irak au même endroit, à la prison d'Abu Ghraib. Lui travaillait au site dur. Il l'appelait comme ça car la prison était un bâtiment en béton. Alors que Lindy et d'autres soldats dormaient dans des tentes à l'extérieur, là où il faisait très froid. Alors Charles Grainer l'invitait à la prison, là où il faisait chaud, et aussi pour y passer du temps ensemble.
La première fois que je l'ai rencontrée, j'ai été très surprise, parce qu'elle semblait très jeune. Elle m'a dit qu'à cette époque, elle était dans l'armée depuis moins d'un an. Elle travaillait dans les bureaux de cette unité. Et j'ai dit, alors, tu as des amis ici, même si tu n'es pas de la police militaire. Et elle a répondu non. J'ai un ou deux amis parce que je n'étais pas affectée à l'unité depuis très longtemps lorsqu'on a reçu l'ordre de se préparer au déploiement. Elle m'a dit qu'elle était amie avec un sergent qui avait été affecté à l'unité à peu près au même moment qu'elle. Et ce sergent, bien sûr, était Charles Grainer. Quand elle a parlé de lui, elle semblait plus détendue.
C'était un patriote. Il avait fait partie de l'armée auparavant et même fait partie du corps des Marines.
Guy Womack, avocat de Charles Grainer.
Dès la sortie du lycée, il travaillait comme gardien de prison. Puis, lorsque les États-Unis ont été attaqués par Al-Qaïda le 11 septembre, il a décidé de reprendre le service actif. Il s'est enrôlé dans l'armée, a été désigné policier militaire spécialisé dans les services correctionnels. Il s'était porté volontaire pour servir en Irak. C'était une personne forte, très volontaire, avec une sacrée personnalité. Et il pensait que ce qu'il faisait ici, dans cette prison, c'était aider les États-Unis à localiser Saddam Hussein.
What happened was that the soldiers who had direct contact with the detainees.
Ce qui s'est passé, c'est que les soldats qui étaient en contact direct avec les détenus étaient autorisés par leurs supérieurs à les déshabiller, les humilier et les tenir en laisse, comme si c'était tout à fait normal. Dans ce cas précis, c'est le sergent Grainer qui les a encouragés.
Interpretation of their role there. Was that humiliation and degradation?
Mais selon son interprétation, le fait d'humilier et de dégrader ces hommes faisait partie de leur rôle et était souhaité par leur hiérarchie, par la chaîne de commandement, par la CIA. Il a banalisé ces comportements. Et c'est cette culture que Lindy rencontrait le soir alors qu'il faisait froid dans sa tente et qu'elle voulait être près de son petit ami.
So Lindy was an exception because she looked young.
Lindy était une exception, car elle paraissait très jeune. Elle agissait comme si elle avait peur de tout et elle avait besoin d'être membre de quelque chose. Lindy England était une adulte, mais elle n'était pas en mesure de réfléchir à ses problèmes, à comment les résoudre avec ses propres ressources. Grainer, lui, savait probablement trop comment contourner les choses, comment rejeter la faute sur les autres, les négliger. On peut pardonner à Lindy England parce qu'elle n'avait aucune expérience. Pas une heure au combat, ni une heure d'entraînement réel sur le terrain. En revanche, Grainer a été formé d'abord chez les Marines. Ensuite, en tant que réserviste, il n'avait aucune excuse.
Tara McKelvey, ancienne journaliste à la Maison-Blanche pour la BBC.
L'histoire de Lindy England est donc souvent racontée d'une telle manière qu'elle en devient la victime. Elle rencontre ce type, Charles Grainer, il est plus âgé qu'elle, il est très charismatique. Elle tombe sous son emprise, puis agit d'une manière moralement répréhensible. Mais tout à fait compréhensible compte tenu des circonstances du champ de bataille où elle se trouvait et du gars avec qui elle traînait. C'est pas juste, parce que ça la prive de son libre arbitre. Ça lui enlève la capacité de choisir entre le bien et le mal. Ça fait forcément d'elle une victime. Elle vaut mieux que ça, et nous aussi, nous valons mieux que ça. Et Lindy England est une personne bien plus complexe. Elle a pris des décisions tout au long du chemin sur ce qu'elle voulait faire et pourquoi elle voulait les faire. Avant de partir en Irak, elle a grandi à Fort Ashby, en Virginie occidentale, dans un quartier pauvre de la ville, et n'avait pas beaucoup de chance, voire très peu de chance, d'aller à l'université. Elle a donc travaillé dans une usine de transformation de poulets, qui était loin de là où elle habitait. Quand elle y travaillait avec sa sœur, à un moment donné, Lindy England a vu tous ces morceaux de poulets descendre la chaîne. Ils étaient malades, dégoûtants et horribles. Alors elle a essayé de rappeler à l'ordre ses supérieurs. Ils ne devraient pas faire ça aux poulets. Ils ne devraient pas les emballer dans du plastique et les envoyer quand la viande alerte de ça. Ils l'ont ignorée. Alors un jour, Lindy était tellement frustrée qu'elle va voir sa sœur, enlève sa blouse, la jette par terre et dit « Je m'en vais d'ici ». Elle a quitté son travail et à ce moment-là, Lindy protestait contre les mauvaises pratiques de l'usine de transformation de poulets. Et quand j'ai parlé à sa sœur, qui travaillait également à l'usine, elle m'a raconté d'autres actes absolument horribles qui avaient été commis. L'un d'eux était un abus sexuel sur des poulets. Et la sœur de Lindy disait qu'en dehors du fait que ce soit atrocement dégueulasse, c'était moralement répréhensible. Donc tout cela se passait dans cette usine. Plus tard, on l'a surnommée l'Abu Ghraib des usines de transformation de poulets. Si cela est important dans l'histoire de Lindy England ou dans celle d'Abu Ghraib, c'est parce que Lindy England a résisté aux abus dont elle a été témoin. Et à ce moment-là, elle est devenue une sorte de dénonciatrice. Le fait est qu'elle était assez dure et qu'elle comprenait quand les choses allaient bien et mal. Elle n'était pas comme une demoiselle en détresse lorsque ces choses horribles lui sont arrivées et qu'elle a été forcée de le faire. Elle a défendu ce qui n'allait pas à l'époque. C'était une personne qui tenait à ses principes. Quand elle était à Abu Ghraib, elle a perpétré des actes criminels, moralement répréhensibles. Et elle l'a fait, pour autant que je sache, parce qu'elle ne les considérait pas comme des êtres humains. Elle les avait réduits à l'état d'objets et en avait fait des individus qui n'avaient pas les mêmes droits ou les mêmes sentiments qu'elle. En conséquence, elle a suivi ou aidé Charles Grainer dans ses fantasmes malsains qui se sont déroulés à Abu Ghraib dans le bloc One Alpha.
En allant du bâtiment principal au bloc 1A et 1B,
le GI's Javel Davis, en 2008,
j'ai vu qu'il y avait déjà des détenus là-bas. Et j'ai découvert qu'ils étaient nus. Je demande, « Sergent, pourquoi ils sont tous nus ?» Il me répond, « Demande aux officiers du renseignement militaire, j'en sais rien. Pourquoi ces mecs portent des culottes de femmes ?» Il me fait, « Pour les faire craquer. » Des hommes nus ou en culottes de femmes, des hommes menottés, dans des positions de stress, en cellules d'isolement, sans lumière, sans fenêtre. Tu ouvres une porte, tu allumes la lumière et là, t'en crois pas tes yeux. Tu éteins, tu refermes et tu demandes « C'était quoi ça ?» On te répond que c'est le renseignement militaire et que tu n'as pas à t'en mêler. J'ai commencé à me dire que c'était pas très net.
Les Américains étaient tellement choqués et enragés par les tours de septembre...
2001.
Que tout était bon.
Laurence Simon, ancienne correspondante de Radio France à la Maison-Blanche.
Je veux dire, ils étaient dans un état où les terroristes avaient frappé pour la première fois le sol américain. C'était la première fois depuis Pearl Harbor. Et on ne savait pas qui c'était. Et donc, quand c'était Bush Jr., avec son complice Cheney, qui était le vice-président, qui ont décidé que non seulement ils allaient en Afghanistan, et après, ils ont décidé qu'ils iraient en Irak. Moi, j'étais correspondante à la Maison-Blanche et je voyais les gens. J'ai interviewé plein de gens des tours et ils me disaient « Mais on n'en a rien à faire des terroristes. » Qui crèvent, comme nous, on a crevé. Il y a eu près de 3000 morts dans les tours, des milliers de blessés qui s'en remettront jamais. Les terroristes, c'est les terroristes. Donc, Bush est parti du principe que les prisonniers, les terroristes, ou ce qu'ils appelaient les terroristes, ne seraient pas les bénéficiaires des accords de Genève 3 et 4. Donc, on ne les reconnaissait pas comme des prisonniers de guerre, donc on ne les traitait pas comme des prisonniers de guerre. Et l'affaire Abu Ghraib, quand elle a éclaté, j'étais plus à la Maison Blanche, mais je me souviens très bien que la première réaction de Bush et de l'administration a été de dire ce sont des incidents isolés, donc déni. Les démocrates comme les républicains étaient comme un seul homme derrière la guerre.
George W. Bush avait été on ne peut plus clair. La fin allait justifier les moyens dans sa guerre du bien contre le mal. Un quoi qu'il en coûte made in USA, une croisade à la vie à la mort pour venger les victimes du 11 septembre 2001. Œil pour œil, dent pour dent, c'est dans l'Ancien Testament que cette Amérique à la solde de Dieu allait chercher les justifications de sa terrible riposte. Abu Ghraib en a été le reflet.
First of all, the story of Abu Ghraib.
Tout d'abord, l'histoire d'Abu Ghraib est celle que vous connaissez bien à présent.
Tara McElvey, ancienne journaliste à la Maison-Blanche pour la BBC.
Les photos iconiques de Lindsey England tenant un prisonnier en laisse, ainsi que l'image iconique de l'homme à la capuche, debout sur une boîte, avec ce qui semble être des fils électriques attachés à ses doigts, et celle de la pyramide humaine, avec des corps nus empilés dans un couloir d'Abu Ghraib.
And I wanted to tell the story about what happened beyond the frames of those pictures.
Moi, je voulais raconter l'histoire de ce qui s'était passé en dehors de ces photos, parce qu'Abu Ghraib n'existait que grâce à ces photos. Si ces photos n'avaient pas été prises et divulguées aux journalistes, il n'y aurait pas eu de crime, ou du moins aucun n'aurait été rapporté.
Général Janis Karpinski, responsable en 2003 de la police militaire de la prison d'Abu Ghraib.
Nous n'avions jamais envisagé d'utiliser Abu Ghraib sur le long terme. Mais quand les règles ont changé, quand le général Miller est arrivé de Guantanamo, où il dirigeait les opérations de la prison, il a ordonné de reprendre les opérations à Abu Ghraib, de remettre les lieux en état, d'amener les prisonniers, quel que soit le motif pour lequel ils étaient surveillés en Irak, de les transférer tous à Abu Ghraib. Mais les prisonniers qu'ils ont commencé à amener à partir de fin août, début septembre, étaient envoyés par les divisions de combat déployées sur tout le territoire irakien. Ces prisonniers étaient des prisonniers dits d'intérêt. Et au lieu de faire venir un ou deux prisonniers par semaine, subitement, des hélicoptères bondés de prisonniers atterrissaient à Abu Ghraib.
En 2008, Jamal Davis témoigne dans SOP, Standard Operating Procedures, documentaire d'Errol Morris.
Il sortait en pleine nuit, raflait tous les hommes en âge de combattre, et les emprisonner. D'où les récits de pères, de fils ou de neveux emprisonnés tous ensemble. C'est comme ça qu'ils faisaient. C'est comme si quelqu'un venait dans votre ville et arrêtait tous les hommes. On aurait dit qu'ils allaient chercher du bétail, ni plus ni moins. Ils arrivaient devant les portes et ils se mettaient à tambouriner. Et le camion revenait à la prison, rempli de gens terrorisés qui disaient « Ils m'ont arrêté en pleine nuit, monsieur. Qu'est-ce que j'ai fait? Je ne suis pas un terroriste. » C'était des chauffeurs de taxi, des soudeurs, des boulangers qui atterrissaient à Abu Ghraib. Des enfants aussi. S'ils n'arrivaient pas à capturer le chef de l'insurrection, ils arrêtaient ses enfants. « Akbar, j'ai ton fils, il est en prison. Rends-toi et on le libère. »
Ce n'étaient pas des prisonniers de guerre. C'était juste des prisonniers et ils avaient été interrogés initialement sur place par des officiers du renseignement militaire. Et s'il s'avérait qu'ils avaient une plus grande valeur en termes de renseignements, ils étaient emmenés à Abu Ghraib. C'était le plan que le général Miller avait élaboré. C'était basé sur la façon dont il traitait les prisonniers à Guantanamo. Il a informé le secrétaire Rumsfeld sur son plan. Et le général Miller m'a alors ordonné, même si je ne travaillais pas pour lui, il m'a donné l'ordre de faire en sorte que la police militaire interroge chaque prisonnier qui arrivait là-bas. Ceux-ci étaient interrogés de nouveau et plus profondément dans leurs cellules par des enquêteurs civils, des sous-traitants, des agents de la CIA et d'autres enquêteurs qui n'étaient pas membres de l'unité de la police militaire.
On a été promu du rang de spectateur au rang d'acteur. On a joué un rôle dans le processus d'interrogatoire. Les interrogateurs venaient nous voir et nous disaient « Passez de la musique à telle heure, très fort, utilisez le mégaphone si besoin. » Mettez-vous juste devant la porte pour empêcher le prisonnier de prier ou de dormir. Désorientez-le. J'ai passé la chanson Hip Hop Hooray encore et encore et encore. Ça fait comme ça. À la fin, le prisonnier irakien chantait. Comme ça ne marchait pas, j'ai changé. Et j'ai mis du heavy metal. J'ai mis Metallica. J'ai passé Enter Sandman, une chanson qui hurle bien. Au début, ils trouvaient ça horrible, mais au bout d'un moment, ça les abrutissait tellement. Ils étaient tellement assourdis par la guitare électrique qu'ils arrivaient quand même à s'endormir. Va comprendre. J'ai mis de la country, et là, ça a marché. Ils ne supportaient pas. Ils suppliaient, ils imploraient Allah pour qu'on éteigne. Quand les interrogateurs sont venus les chercher, ils étaient plus que mûrs. Ils suppliaient qu'on les emmène. Freedom's just another word for nothing left to lose. Nothing ain't worth nothing, but it's free.
Nobody was there to supervise them. Nobody was there to.
Personne n'était là pour les superviser.
You know, what's wrong with you?
Personne n'était là pour dire, c'est quoi votre problème? Qu'est-ce qui se passe? On leur a dit de différentes manières, de façon directe. Pour sortir d'ici, on doit utiliser ce genre de méthode. Et ils voulaient sortir de là. C'était dès le départ une situation critiquable qui n'a fait qu'empirer.
Mais il faut bien savoir quand même que les horreurs qu'on a commises, si vous voulez que malheureusement je les liste, ça m'a arraché la bouche, mais c'était non seulement le waterboarding, c'était les classiques nazis et du KGB, c'est-à-dire on pendait les gens, les hommes et les femmes, hein, au plafond en les rouant de coups, ils en mouraient pendant des heures, on les exposait au soleil s'ils parlaient, ils en mouraient. Et puis, il y avait les chiens autorisés par le Pentagone et la CIA et des humiliations sexuelles absolument abominables. Des bâtons dans l'anus, des cunnilingus ou des fellations entre prisonniers. Et ça, ça a été le côté pornographique de ces tortures a extrêmement choqué les Américains. On fait pas ça. Et Garner and England, qui se sont prêtés à ça avec un grand plaisir, j'imagine, ont porté le chapeau.
Sherif Akil, avocat des droits de l'homme et des victimes d'Abu Ghraib.
Ils ont fait ce qu'on appelle de la torture furtive ou de la torture invisible. C'est une forme de torture qui s'imprime dans votre esprit pour le reste de votre vie. Des personnalités religieuses déshabillées, nues, forcées de servir de la nourriture à des femmes nues. Il y avait aussi les hommes qui voulaient prier et une image de cochon était affichée dans la direction de la prière. Vous aviez des femmes qui touchaient les hommes de manière sexuelle avec agressivité. des choses qui ne laissent aucune marque physique, comme suite à des coups. Vous savez, ils ne peuvent pas dire « voilà comment j'ai été torturé ». Même si certains ont été torturés, avec des brûlures de cigarettes sur la peau. Certains ont été abusés physiquement, sodomisés dans les douches. Beaucoup des Irakiens aujourd'hui qui ont subi des tortures ne sont plus que des coquilles vides ambulantes. L'ombre de ce qu'ils étaient, ils ont été dépouillés de toute dignité.
Tariq Saleh, réalisateur, auteur en 2006 de Gitmo, documentaire qu'il consacre à la prison de Guantanamo.
Je pense que les dirigeants de l'époque ont estimé qu'il s'agissait d'une situation extraordinaire. Nous devons obtenir les informations. Nous devons les obtenir rapidement. Il y a eu deux débats. Est-ce que c'était efficace? Et est-ce que c'était moralement défendable?
Sergent Sabrina Harman, une des six inculpées d'Abu Ghraib dans SOP, Standard Operating Procedure, documentaire d'Errol Morris en 2008.
On va peut-être faire l'objet d'une enquête. Ça a été évoqué. C'est vrai, il frappe les prisonniers. Je n'ai jamais pensé que c'était bien. C'est pour ça que je prends des photos. Pour étayer mes déclarations. Personne ne croirait qu'il se passe tout ça ici. Absolument personne. Si je veux pouvoir photographier ces événements, je dois faire semblant d'être d'accord.
Darby, the initial guy who reported it.
Darby, le premier gars qui a dénoncé la situation, c'est aussi lui qui a parlé de Sabrina, le sergent Harman, qu'elle était en permission, qu'elle avait des photos et qu'elle les avait probablement emmenées avec elle. Le colonel Pappas et ses hommes du renseignement militaire ont fouillé sa chambre et ses affaires à Abu Ghraib et ils n'ont pas trouvé grand-chose. Donc, ils ont envoyé des agents du FBI là où elle était en congé, en Pennsylvanie.
Le système militaire était effrayé que la presse allait trouver.
L'appareil militaire craignait que la presse découvre ces informations et que cela soit divulgué au grand public puisqu'il y avait des photos. Mais à ce moment-là, la presse n'avait pas les photos. Mais ils étaient au courant de l'existence de celles-ci. Et la personne qui avait des photos avait déjà deux agents du FBI qui l'intimidaient en Pennsylvanie. Parce qu'ils voulaient que tout ça reste totalement secret.
Qui voulait cacher ces photos ?
Je peux vous assurer que le général Miller voulait garder le secret parce qu'il voulait faire beaucoup de choses illégales. Et ces photos prouvaient qu'il faisait effectivement des choses illégales.
Lindy England.
Et je me souviens que j'ai regardé ma montre. Il était 2h19 du matin. Et je me souviens de m'être levé. J'ai ouvert la porte. Et il y avait un groupe d'hommes dehors, des silhouettes. Il faisait nuit. Ils m'ont dit qu'ils étaient du renseignement militaire, du CID. Je me suis dit, c'est quoi ça? Alors j'avais très peur.
Alain de Chalvron, France 2, 28 septembre 2005.
En se rendant à son procès, Lindy England ne se fait guère d'illusions. Elle incarne tellement le scandale d'Abu Ghraib qu'elle ne peut échapper à une condamnation. Ces photos où elle pose souriante face à des prisonniers irakiens en position humiliante ont fait le tour du monde. « Je n'ai pas connaissance », a dit le procureur, « de faits dans le passé qui aient autant terni la réputation de l'armée américaine. Dès lors, la défense de la jeune soldate, l'obéissance aux ordres, devenait inaudible. »
Jonathan Crisp.
Je me souviens du jour où j'ai appris l'existence de cette affaire. J'étais sur mon canapé, je regardais les informations et elle était sur le plateau. Et je me rappelle m'être tourné vers ma femme en lui disant « Je suis ravi de ne pas être appelé pour cette affaire parce que ça va être un cauchemar à cause de l'indignation publique que ça va créer. » Trois jours après, je reçois un coup de fil et je dois décider si j'ai envie de la défendre ou non.
Début mai 2005, c'est avec son avocat, Jonathan Crisp, que Lindy England, 23 ans, arrive devant ses juges, ceux du tribunal militaire de Fort Bragg, en Caroline du Nord. Une cour martiale spéciale pour juger celle qui est alors au cœur du scandale de la prison d'Abu Ghraib de Bagdad, en Irak. Accusée de conspiration en vue de maltraiter des prisonniers et coups et blessures, cette jeune réserviste doit assumer des crimes pourtant couverts par les plus hautes autorités qui sont, elles, absentes du banc des accusés.
J'ai rapidement compris que Lindy England n'était qu'un pion dans cette affaire. Elle avait 19 ans à ce moment-là et donc il y avait des personnes bien plus responsables qu'elle au sein de cette prison. En Virginie, elle ne faisait même pas partie de la police militaire. C'est ce genre de choses que je n'ai vraiment pas appréciées en acceptant l'affaire.
Guy Womack, avocat de Charles Grainer.
Tous les accusés, sauf Grainer, ont plaidé coupables et ont été condamnés à des peines allant jusqu'à 10 ans. Le caporal Grainer a refusé de le faire et nous sommes donc allés au procès. On a pu contre-interroger le sergent d'état-major Frédéric, qui était son supérieur et qui a admis qu'il faisait ce qu'il pensait qu'on leur avait demandé de faire en toute légalité. On a adopté cette ligne de défense. Le caporal Grainer a été déclaré non coupable de certaines accusations, mais il a été reconnu coupable de maltraitance et d'avoir photographié une prostituée irakienne nue de 19 ans. Il a écopé d'une peine de 10 ans, réduite à 8 ans, comme celle dont le sergent d'état-major Frédéric a écopé après avoir plaidé coupable et avoir témoigné devant le gouvernement. Le caporal Grainer a fini par purger environ 6 ans de prison et il est sorti. Je pense que l'affaire est exactement ce qu'elle semble être. Il a suivi les ordres donnés. Nous avons entendu parler de choses certainement bien pires que celles que les agents du renseignement ont ordonné de faire. C'est pour ça que, selon moi, il n'aurait pas dû être reconnu coupable de maltraitance.
Xavier Amador, psychologue en charge de Lindy England.
Il y a eu une formidable évolution dans sa compréhension de sa responsabilité. Plus elle a eu de conversations avec ses avocats, qui étaient des officiers de l'armée, et avec moi, plus elle comprenait que ce qu'elle avait fait était terrible, horrible et injustifié. Elle a fini par comprendre que cela n'avait pas d'importance qu'il s'agisse d'ordre légitime ou non. Elle avait mal agi. Elle l'a compris. Et c'est pourquoi elle a finalement plaidé coupable. Elle a compris que ce qu'elle avait fait était horrible après avoir entendu son petit ami, Charles Grainer, témoigner lors de son premier procès. Elle a eu deux procès. Le premier procès a été annulé par le juge colonel Paul grâce au témoignage de Charles Grainer, dans lequel il déclarait que Lindy England n'était pas responsable, puisque c'est lui qui l'avait ordonné d'agir ainsi. Et elle a tout de même essayé de plaider coupable. Mais il n'est pas possible pour la défense d'appeler un témoin qui dit « Oh, elle n'est pas coupable » alors que l'accusé plaide coupable. C'est pourquoi le juge Paul a ordonné l'annulation du procès.
Grainer a été emprisonné, et Lindy aussi. Et qu'est-ce qui ressort de tout ça? Je ne dis pas qu'il était bien de prendre les photos ou quoi que ce soit d'autre. Je ne dis pas que cela l'excuse. Mais tout ce qui a été dit à son sujet portait sur le fait qu'elle couchait avec Grainer et qu'elle était tombée enceinte de lui. Moi, ça m'est égal. Mais le procureur a dit qu'elle n'était pas concentrée sur son travail à cause de ça, qu'elle n'était pas en mesure de prendre la décision de signaler un comportement non autorisé parce qu'elle n'était pas assez intelligente pour savoir comment le faire. C'est tellement injuste.
Ça
doit être quelqu'un comme Rumsfeld ou quelqu'un de son bureau qui a dit à ce procureur militaire, peu importe ce que vous avez à dire, faites-la inculper et mettez-la en prison. Et ils l'ont fait. Alors, il fallait mettre un visage sur cette affaire. Donc, vous choisissez un Grainer et vous voyez Lindy England, cette jeune fille qui tombe sous l'emprise de ce type Grainer. Les deux seuls traduits en cour martiale. Ces photographies ont changé notre position dans le monde. On nous a tout mis sur le dos, sur le leur, le mien et celui des soldats de l'unité.
En fait, depuis avant la guerre, la CIA, qui avait forgé les documents pour aller se battre en Irak et envahir l'Irak, avait autorisé et encouragé la torture. Et le bataillon ou l'unité qui s'était chargée d'Abu Ghraib de l'armée, quand ils ont été punis, c'était des lampistes. Alors évidemment, je ne les excuse pas, ils ont commis des trucs atroces, mais il y a personne dans l'administration américaine, que ce soit le Pentagone qui a autorisé les tortures, que ce soit le département de la justice qui a participé à ça, que ce soit la CIA, personne n'a reçu une éraflure. Alors que les deux principaux accusés, Garner et England, ont reçu 10 ans de prison. Et le brigadier général en charge des centres de détention s'est vu rétrogradé du rang de brigadier général à colonel. Voilà. Mais il faut bien savoir que en cour martiale en 2004 ou 2005, il y a 17 soldats qui sont passés devant la cour martiale, donc, mais pas une seule personne de l'administration. Donc les vrais responsables, à part les exécutants, les vrais responsables n'ont jamais été touchés. Il faut bien savoir aussi que les tortures, et notamment le waterboarding pour les terroristes, a aussi été accepté et continué sous l'administration Obama. Alors, ce qui s'est passé, c'est que quand même, c'était en 2011, je crois, la Cour suprême inflige un camouflet à l'administration Bush en décidant que la Convention de Genève 3 et 4 s'applique aux terroristes. Et que ce sont des prisonniers de guerre. C'est un peu trop tard.
Ils l'ont mise en prison en Californie, dans la prison de la marine de San Diego. Sa mère a donc déménagé à San Diego, où elle a trouvé un endroit où vivre dans une caravane près de la prison, afin de pouvoir aller voir sa fille une fois par semaine. Lindy était enceinte à ce moment-là. Et lorsqu'elle a accouché, sa mère s'est occupée du bébé.
Elle m'a semblé soulagée. Elle semblait vraiment très soulagée. Comme si elle était arrivée à la fin d'un marathon. C'était enfin terminé. Même si à ce moment-là, ce n'était pas réellement fini pour elle. Elle a passé de nombreuses années à essayer de redorer son image auprès du public. Mais au moins, le pire était passé.
Oh, say can you see by the dawn's early...
À Washington, personne ne rase les murs. À Washington, on se tient droit et on ignore. On a essayé de mettre ça sous le tapis. Puis y a les médias comme CNN ou MSNBC ou Fox n'ont pas développé l'histoire comme CBS ou le New Yorker. Il y avait une espèce d'omerta sur ce qui s'était passé parce que les Pelosi, tout le monde était impliqué.
Les démocrates étaient très embarrassés parce qu'ils avaient défendu la guerre et ils continuaient de la défendre. Et franchement, la presse n'a pas fait son boulot. Il n'y a pas eu d'enquête des journalistes après. On n'a pas poursuivi l'investigation. Est-ce que ça continue dans les camps de détenus en Afghanistan, à Guantanamo ou en Irak? Il n'y a pas eu de suivi.
Je suis allée là-bas parce que je pensais que je pouvais aider les Irakiens à retrouver leur liberté. J'y croyais vraiment. Mais après Abu Ghraib, j'aurais préféré ne jamais en avoir fait partie.
C'était Lindy England, la scandaleuse d'Abu Ghraib, avec Laurence Simon, Janice Karpinski, Xavier Amador, Jonathan Crisp, Guy Womack, Tariq Saleh, Tara McKelvey et Shérif Akil. Avec les voix de Violette Fossa, Sonia Masson, Romain Lemire, Olivier Vogel, Thomas Duterre et Indiana Burkel. Merci à Indiana Burkel pour les traductions et son aide précieuse pour la préparation de ce documentaire. Merci également à celle qui m'a inspiré cette série, Merima Husenbazic, rescapée de la guerre en Bosnie, spécialiste des crises et des conflits, ancienne du tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. Prise de son et mixage, Philippe Thibault et Luna Bricotto. Réalisation, Anne de Pelchin. Attachée de production, Sylvia Favre. Coordination, Christine Bernard. Une histoire particulière d'Alain Lefkovitch.
Thank you.